France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and Inga Housey.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ce soir, notre invité est commissaire aux droits humains ukrainien. Il sert de médiateur, il sert de relais. Son grand dossier, c'est l'enlèvement des enfants ukrainiens par les Russes. Des enfants à qui on lave le cerveau. On peut aussi parfois les retrouver sur le front. Des Européens à l'arrière-plan, passifs, derrière les signataires de l'accord sur Gaza. C'est l'image qui a frappé Frédéric Seyss, qui remet le monde à l'endroit dans Un jour dans le monde. Le reportage est en Chine, qui devient championne du transport aérien civil, au point qu'il n'y a pas assez de pilotes pour faire voler tous les avions.
Au départ, nous avions prévu d'avoir 200 avions, mais nous envisageons désormais de monter à 400. À partir de maintenant, nous allons acheter environ 10 avions par an.
Un reportage de Sébastien Berriot que vous découvrirez autour de 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé Javier Milei qui vient chercher aux États-Unis de quoi renflouer son économie. Et puis Caroline au pays des 27 avec Caroline Gillet qui a rencontré celui qui téléguide les satellites de navigation européens. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
President Putin and I have had an open channel of communication regarding the welfare of these children.
Mélania Trump, qu'on entend, elle dit « Nous avons ouvert et maintenu un canal de discussion sur le bien-être des enfants ukrainiens ». Elle dit que 8 sont peut retrouver leur famille. Une intervention qui date d'il y a 2 jours seulement. Bonsoir Dmytro Loubinets.
Доброго дня.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire aux droits humains auprès du Parlement ukrainien. Votre travail consiste notamment à veiller au respect des droits de l'homme dans votre pays en guerre contre la Russie. On parle des prisonniers de guerre, on parle du traitement des civils dans les zones de front et ailleurs. On parle aussi des enfants dont nous savons que des milliers d'entre eux ont été enlevés à leur famille par des Russes. Mélania Trump, qu'on vient d'entendre, monsieur Loubinets, est-ce que c'est un bon canal? Est-ce que c'est un réel espoir de voir rapatrier des enfants ou pas?
Tout
d'abord, je voudrais remercier la France, les citoyens français, pour l'aide que nous, Ukrainiens, nous recevons et nous ressentons de votre part. Nous sommes reconnaissants à tous les partenaires qui nous aident à faire revenir nos enfants ukrainiens. Et en effet, c'est pour la première fois que la première dame des États-Unis, ensemble avec la première dame de l'Ukraine, non seulement ont soulevé cette question, mais grâce à leurs efforts, nous avons pu récupérer un certain nombre d'enfants. Il faut reconnaître aussi que ces enfants qui sont revenus il y a 2 jours, et nous avons réussi à le faire par l'intermédiaire d'un des pays qui nous aide traditionnellement en la matière, qui est le Qatar. Nous avons une coalition internationale de pays quant au retour des enfants ukrainiens, et je suis particulièrement heureux de noter que la France est un de ces pays qui nous aide directement et qui est membre de cette coalition. En Ukraine, nous avons créé un plan présidentiel, donc rendez-les maintenant, et ensemble, nous avons réussi, avec les efforts français, de faire revenir 1694 enfants ukrainiens.
Vous avez, vous, avancé ce chiffre de 80 000 personnes portées disparues en Ukraine, au milieu desquelles sont les enfants enlevés par les Russes. Il y a un rapport de Yale, un rapport très récent, qui a pu en calculer à peu près 35 000, et c'est ça l'immense difficulté. Savoir exactement combien, est-ce que c'est même possible, Dmytro Loubinets?
Je vous remercie beaucoup pour cette question. Vous avez exprimé le problème principal, à savoir le nombre. Comment vérifier combien d'enfants ukrainiens les Russes ont enlevés? Vous serez très étonné, mais le chiffre potentiel des enfants ukrainiens qui se trouvent aujourd'hui sous la menace de déportation sont déjà déportés, c'est 1,6 million. D'enfants ukrainiens. Ce chiffre, ce sont les enfants qui vivaient sur le territoire aujourd'hui contrôlé par la Fédération de Russie. Combien d'entre eux ont été déportés, enlevés? Personne ne le sait exactement. Nous, les organes de pouvoir ukrainiens, nous avons réussi à trouver les informations quant à 26 000 enfants. Yale a effectivement rendu public ce rapport. Il parle de 35 000 enfants. Les représentants de la Fédération de Russie ont parlé du fait que sur le territoire de la Fédération de Russie, il y a plus de 700 000 enfants ukrainiens. Et nous sommes conscients que tous ces enfants se sont retrouvés là-bas, pas par leur propre volonté, de leur propre désir. Nous voyons par conséquent que les Russes, en premier lieu, déportent les enfants ukrainiens, remplacent leurs papiers d'identité, les placent dans les familles russes, les placent dans les organisations de jeunesse militarisées et font tout en sorte de modifier leur identité ukrainienne pour l'identité russe. Tout cela constitue un crime de guerre et le génocide. Et c'est parce que les Russes bloquent toute information concernant ces enfants que nous ne pouvons pas établir le chiffre précis. Mais ce sont des dizaines de milliers d'enfants enlevés.
Ces enlèvements, c'est d'ailleurs le motif du mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine. Ceux qui sont rentrés, vous nous avez expliqué qu'on leur lavait le cerveau, qu'on les mettait dans des conditions particulières. Leur retour s'est passé comment ? Est-ce que, typiquement, ce sont des enfants qui ont eu du mal à reconnaître leurs parents, à revivre à nouveau dans l'Ukraine ? Est-ce que, parce que ça préfigure beaucoup ce qui peut se passer quand d'autres, j'espère, rentreront. Ils arrivent dans quel état quand ils reviennent ?
En effet, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre le président de la Fédération de Russie, justement en raison de la déportation des enfants ukrainiens. Il n'y a aucun problème avec les enfants qui reviennent en Ukraine après l'occupation, après cette déportation. Le problème est que les Russes ne nous les rendent pas. Le retour de chaque enfant, c'est une mini-opération spéciale. Ce sont des papiers, ce sont des intermédiaires. Ce sont des pourparlers individuels pour chaque enfant. On peut dire que nous nous battons pour chaque enfant pour les récupérer.
Et
il faut être honnête. Le temps joue contre nous. La plupart de ceux que nous avons pu faire revenir, ce sont des adolescents. C'est ceux qui confirment « je suis ukrainien » ou « je suis ukrainienne, je veux rentrer chez moi, j'ai des parents, j'ai de la famille ». Mais comment faire avec des tout petits Ukrainiens qui, trois ans plus tard, ne se souviendraient même pas de leurs racines ukrainiennes? Nous avons des milliers de cas lorsque les petits Ukrainiens avaient été enlevés. On a modifié leur état civil, on a modifié leur acte de naissance et on leur raconte qu'ils sont russes. Et c'est un problème immense quant au retour de ces enfants. Mais l'essentiel, nous voyons, d'après les documents, de ce que font les Russes sur les enfants ukrainiens, qu'ils veulent les utiliser aussi comme source de l'armée russe. Ce sont des futurs soldats de l'armée russe qui vont se battre contre l'Ukraine et peut-être contre quelqu'un d'autre.
Est-ce que, justement, j'allais vous poser la question, la crainte, évidemment, c'est de les retrouver envoyés au front. Est-ce qu'on sait si ça s'est déjà produit ?
Oui,
ça s'est déjà produit, ça se produit aujourd'hui. Vous savez, le premier enfant ukrainien qui avait été enlevé par les Russes, c'était un enfant ukrainien de Crimée ukrainienne. C'était en 2014. Et nous avons vu aujourd'hui que beaucoup de soldats russes, soi-disant, sont nés en Ukraine. Et qu'au moment de l'occupation d'une partie de la région de Donetsk, de Luhansk, de la Crimée, c'était des enfants. Et aujourd'hui, ce sont des soldats russes qui ont passé par l'obtention de passeports qui leur a été imposé, par la mobilisation, l'enrôlement forcé, et aujourd'hui, ils se battent contre leur propre pays en tant que soldats russes. Donc tout le monde doit regarder les choses de manière réaliste. Les Russes utilisent les enfants ukrainiens comme soldats russes. Ça s'est déjà produit et si nous ne nous arrêtons pas cela, si nous ne mettons pas fin à ce crime de guerre, nous devons être prêts à cette agression se poursuivre et non seulement contre l'Ukraine mais contre d'autres pays européens.
Vous étiez très remonté contre le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, dès 2023, en leur reprochant une forme de passivité et notamment vis-à-vis du problème des enfants, mais aussi d'ailleurs des prisonniers de guerre. Est-ce que cette colère est toujours intacte ?
Vous avez parfaitement raison. Международный военный конфликт в Украине,
le conflit militaire armé, l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine ont dévoilé la crise des organisations internationales. Aujourd'hui, le droit humanitaire international est construit uniquement pour les pays qui respectent consciemment les normes du droit international, la Convention de Genève. Mais que faire des pays qui violent consciemment ces normes? Que faire avec les Russes qui torturent les militaires ukrainiens, les prisonniers de guerre ukrainiens, qui enlèvent et détiennent les civils ukrainiens, enlèvent les enfants ukrainiens? Et lorsque les organisations internationales lèvent les bras au ciel en disant, bon, effectivement, nous essayons de faire quelque chose, mais vous comprenez, les Russes ne laissent pas avoir contact avec ces gens et nous ne pouvons pas remplir notre mandat. Nous sommes conscients que les Russes le font, mais vous, qu'est-ce que vous faites de la part des organisations internationales pour changer cette situation? Est-ce que vous modifiez vos approches internes de fonctionnement? Est-ce que vous essayez de lancer de nouvelles méthodes de réaction contre ces violations? Car nous disons aujourd'hui que les Russes violent non seulement les droits de nos concitoyens, mais également les droits des collaborateurs de la CICR. Et nous devons aujourd'hui modifier de manière radicale les mandats des organisations internationales, y compris celui du CICR.
Modifier comment? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut considérer qu'ils ne sont plus vos alliés, ils ne vous servent à rien? C'est par un autre canal qu'il faut s'occuper des enfants, des civils et aussi des prisonniers de guerre?
Nous ne disons pas que les organisations internationales doivent être nos alliés. Nous disons que les organisations internationales doivent remplir de manière efficace leur mandat, à savoir être efficaces et objectifs. Aujourd'hui, c'est devenu une organisation statistique, une caisse d'enregistrement qui collecte les informations uniquement dans les pays qui les autorisent à avoir accès. En Ukraine, ils n'ont pas de problème et ils disent, voilà, nous continuons notre mandat en Ukraine, mais sur le territoire de la Fédération de Russie, tout est fermé, mais ils n'en parlent pas. Et c'est le principal problème du droit humanitaire international et des organisations internationales. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait que la Fédération de Russie est le membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU, en tant qu'organisation, qui avait été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale afin de rendre impossible à jamais la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que l'ONU remplit son mandat entièrement, efficacement? Certaines agences, oui, mais dans l'ensemble, l'ONU reste passif.
Est-ce que ça veut dire que vous n'espérez pas de nouveaux retours de prisonniers de guerre, par exemple? Il y a eu un certain nombre d'échanges à un moment. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on en est à un stade aujourd'hui où, de toute façon, les échanges avec les Russes sont tellement impossibles, comme vous les décrivez, qu'il n'y aura même plus d'échanges de ce type-là?
Les échanges se poursuivent et en tant que personne directement impliquée dans ce processus, je peux confirmer qu'il y aura d'autres échanges. Mais ces échanges ont lieu uniquement sur l'initiative de la partie ukrainienne. Et puisque nous avons des prisonniers de guerre russes et en vertu de la Convention de Genève, nous pouvons les échanger contre les prisonniers de guerre ukrainiens, mais nous n'avons pas d'implication des organisations internationales qui, de nouveau, auraient dû assurer ce travail. Aujourd'hui, cela se passe uniquement dans les pourparlers entre les pays en impliquant des pays tiers. Par exemple, en ce qui concerne les prisonniers de guerre, nous avons les Émirats arabes unis qui sont impliqués. Pour les enfants ukrainiens, c'est le Qatar qui intervient. Nous avons beaucoup d'initiatives de la part du Vatican. Nous avons également une grande initiative de la part des pays européens qui, à mes yeux, créent des préconditions pour le retour des enfants ukrainiens. C'est une aide directe à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne. C'est exactement ce que oblige les Russes à tenir compte de nos possibilités et de procéder justement à ces pourparlers.
Une dernière question, Mitro Lobinets. Vladimir Zelensky a parlé avec Trump ce week-end. Il a parlé deux fois avec lui, l'exhortant à l'aider à mettre fin à la guerre en Ukraine sur sa lancée de Gaza, au fond. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une part, les États-Unis sont en train de regarder ailleurs en ce moment et c'est peut-être un problème pour vous? Ou est-ce que, au contraire, vous vous dites Donald Trump, finalement, est le seul à pouvoir imposer une paix avec la Russie, comme il l'a imposé à Benjamin Netanyahou, et qu'il le fasse vite?
Я скажу так, що тут немає однієї людини, яка
може це зробити. D'une personne qui serait capable de le faire. Je suis intimement persuadé que nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour, en premier lieu, mettre fin à des actions armées directes, actives. Nous faisons tout ce qui dépend de nous. Et bien évidemment, les leaders du monde occidental jouent leur rôle exceptionnel, leur rôle de leader. Donc, il y a bien sûr le rôle des États-Unis et celui du président des États-Unis, M. Trump. Mais des partenaires européens prennent part aussi, la France, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays de l'Union européenne et tous nos alliés. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Car pour nous, ce n'est pas uniquement la guerre. Vous comprenez bien que ça fait plus de 11 ans que nous nous battons contre un pays qui est bien supérieur en termes de territoire, de ressources humaines, du potentiel militaire. Et chaque jour et chaque nuit de cette guerre, pour nous, signifie que quelqu'un va mourir, quelqu'un va perdre une partie de sa santé, y compris les enfants, les femmes, les personnes âgées et les hommes ukrainiens, bien évidemment. Donc l'objectif numéro un, c'est de mettre fin à la guerre chaude, passer ensuite à la phase diplomatique et dimension politique de retour de nos territoires, de retour de nos citoyens et de ce fait mettre fin à cette guerre.
Dmytro Lubinets, vous êtes commissaire aux droits humains au Parlement ukrainien. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci beaucoup. La traduction était assurée par Irina Dmitrychine. Merci beaucoup. Merci à vous deux. La suite, c'est Frédéric Seyss qui remet le monde à l'endroit.
Au Proche-Orient, triomphe de Trump. Mais au fait, où sont les Européens?
Et c'est juste après ça. Make it all about me. I make it all about me. About Me, c'est dans la playlist de France Inter. Frédéric Seyss remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Frédéric, au Proche-Orient, où sont passés les Européens?
L'image d'hier soir à Sharm el-Sheikh est édifiante. Au centre de la table, Donald Trump signe l'accord de paix, entouré par les dirigeants égyptiens, qataris et turcs. En arrière-plan, engoncés dans leur fauteuil, relégués au rôle de spectateurs, les Européens, sourires crispés, qui applaudissent. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, l'Allemand, Giorgia Meloni, l'Italienne, Pedro Sanchez, l'Espagnol, tous installés comme les figurants d'une pièce de théâtre qui s'écrit sans eux. Tous installés, image terrible. terrible, humiliante même pour une Union européenne qui se rêve en acteur géopolitique. Que voulez-vous ? Hier soir, c'était le moment Trump, nous explique un diplomate européen presque résigné.
Pourtant, l'image d'hier soir, Frédéric, avec ses dirigeants européens passifs, elle est bien caricaturale.
Oui, elle est même injuste, parce que ces derniers mois, les Européens ne sont pas restés inactifs. Le plan franco-saoudien porté par Emmanuel Macron l'été dernier a permis des avancées. Il a pour la première fois isolé le Hamas avec plus de 140 pays qui se prononcent noir sur blanc pour le désarmement du groupe islamiste, dont les pays du Golfe. Ce plan franco-saoudien a donc rapproché les positions occidentales et celles des pays arabes, une première étape nécessaire avant bien sûr le dur des négociations portées par l'administration américaine. Good job, beau travail, a d'ailleurs lancé hier soir Donald Trump à Emmanuel Macron, peut-être aussi pour se rattraper après l'avoir taquiné publiquement sur son inhabituelle discrétion au cours de ce sommet. Cela dit, si l'Europe peine à faire entendre sa voix, c'est aussi parce qu'elle en a plusieurs, des voix, en particulier sur le Proche-Orient. Tiens, faisons un zoom sur la photo d'hier soir. Parmi les Européens, vous aviez là le Hongrois Viktor Orban, ultra pro-israélien, Friedrich Merz et Giorgia Meloni, eux aussi soutien constant d'Israël, Emmanuel Macron qui est davantage dans le « en même temps » et Pedro Sanchez, l'Espagnol, lui ouvertement pro-palestinien. Voilà l'éventail des positions des 27, éventail là aussi moqué par Donald Trump hier soir. L'Union européenne, dit-il, c'est beaucoup de dirigeants à la fois, ce qui rappelle la phrase d'Henry Kissinger, l'ex-chef de la diplomatie américaine. L'Europe, quel est son numéro de téléphone ?
Mais les Européens espèrent, malgré tout, peser sur la suite des événements.
Et conjurer ce paradoxe historique. L'Europe est située tout près, à quelques centaines de kilomètres de la Terre Sainte, et pourtant, ce n'est jamais elle, l'Union européenne, qui parvient à négocier la paix. Accord de Camp David, 1978, aux États-Unis, accord d'Oslo, 1993, en Norvège, signé ensuite à la Maison-Blanche, accord de Sharm el-Sheikh, hier soir, en Égypte. Alors, comment peser ? D'abord, l'Union européenne va former les futures forces de sécurité palestiniennes. Elle va aussi participer à la surveillance des frontières. Mais au-delà de ça, aura-t-elle une voix, un siège au Conseil de reconstruction présidé par Donald Trump ? À cette heure-ci, personne n'en sait rien. Il reste une autre question. Nous voici dans l'époque de la diplomatie du tweet. Tweet écrit en majuscule, diplomatie portée par des hommes d'affaires à la Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, sans culture historique, mais avec force et bagou. Face à cela, la diplomatie européenne, attachée à la nuance, au raisonnement balancé, au compromis filandreux, peut-elle lutter ? Peut-elle se faire entendre ? Au fait, vous avez déjà essayé d'écrire un tweet à 27 ?
Frédéric Saïs, merci beaucoup, vous reviendrez demain. Le reportage d'Un jour dans le monde est en Chine ce soir, qui est en passe de devenir la première puissance mondiale en matière d'aviation civile. Aujourd'hui, elle est deuxième derrière les États-Unis. Il faudra 10 petites années, c'est pas beaucoup en temps aéronautique, pour inverser les rôles. Car après un passage difficile pendant le Covid, le secteur de l'aviation civile a opéré une remontée spectaculaire. Construction de nouveaux aéroports, achat d'avions par milliers, au point qu'il n'y a pas assez de pilotes pour faire face à un marché de près de 650 millions de passagers par an. Le reste, c'est Sébastien Berriot qui raconte.
Au nord-ouest de la Chine, le Qinghai est l'une des provinces les plus pauvres du pays. Beaucoup d'habitants ici n'ont pas encore bénéficié de l'incroyable développement que connaît la Chine. Duo Jia, par exemple, 24 ans, qui travaille comme livreur à Xining, la capitale de région, espère un jour pouvoir prendre l'avion pour la première fois.
J'ai déjà voyagé en dehors de ma province, mais je n'ai jamais imaginé l'avion parce que c'est cher. Mon choix jusqu'ici s'est porté sur le train. Je prendrai certainement l'avion à l'avenir quand j'aurai suffisamment d'argent, peut-être quand j'irai travailler à Pékin.
Comme Duo Jia, ils sont plus d'un milliard de Chinois à n'être encore jamais montés dans un avion. Aucun autre pays au monde ne dispose d'un tel vivier. Un milliard de voyageurs potentiels. Les 66 compagnies chinoises s'y préparent depuis longtemps. Nous sommes maintenant à l'aéroport Hongqiao de Shanghai, dans la salle de contrôle de Spring Airlines. Cette compagnie low-cost privée illustre la vitalité de l'aviation civile à l'intérieur de la Chine. Zhang Wan est le fondateur et PDG.
Aujourd'hui, notre compagnie aérienne transporte 25 millions de passagers par an. Et dans 5 ans, on estime que nous en transporterons plus de 100 millions par an. Au départ, nous avions prévu d'avoir 200 avions. Mais nous envisageons désormais de monter à 400. À partir de maintenant, nous allons acheter environ 10 avions par an.
avion vient compléter le réseau ferroviaire grande vitesse en Chine, déjà très dense, mais qui reste largement insuffisant pour absorber la nouvelle soif de voyage des Chinois. Les compagnies aériennes opèrent tous les jours plus de 4500 lignes régulières. Les avions volent dans tous les sens, entre les grandes métropoles, mais aussi vers de plus petites villes et les provinces les plus reculées. Et comme ici à bord de cet Airbus d'Air China qui relie Pékin à Wuhan, les vols sont presque toujours quasiment complets. Il est très rare en Chine d'avoir des places libres dans un avion. Mais problème, il n'y a pas assez de pilotes. Les quelques 61 000 aujourd'hui en service en Chine n'arrivent pas à satisfaire la demande. Alors Spring Airlines tente de séduire les pilotes étrangers comme Paolo, un Finlandais qui a été recruté à Shanghai. Et il se dit très impressionné tous les jours en survolant le territoire chinois.
On croyait que le Covid allait mettre un terme à tout ça, mais après l'épidémie, on a assisté à une incroyable reprise. Je le constate à chaque fois que je vole. Je vois de nouveaux aéroports, de nouveaux terminaux, de nouvelles pistes. Par exemple, dans la ville de Lanzhou, avant le Covid, on parlait d'un projet de nouvel aéroport. Il n'y avait presque rien, et trois ans plus tard, on a un aéroport avec deux pistes de taille équivalente à ce qu'on peut avoir en Europe.
La Chine dispose aujourd'hui de 249 aéroports, deuxième rang là aussi derrière les États-Unis. Un développement qui s'est heurté effectivement au Covid, par exemple à l'aéroport de Daxing à Pékin, surnommé le Roissy chinois, qui avait ouvert ses portes juste avant l'épidémie. Aujourd'hui, l'énorme site est encore sous-utilisé. On voit une partie des installations à moitié vide, mais cela ne freine pas la démesure à la chinoise, pas vraiment en adéquation avec les ambitions climatiques du pays. Illustration à quelques centaines de kilomètres de Pékin, l'aéroport de Dalian, près de la Corée du Nord. Là, on est en train de décoller de Dalian, mais d'ici quelques années, cet aéroport n'existera plus et sera remplacé par un tout nouveau installé sur une île artificielle qui est en cours de construction. Le chantier est monumental. Ce sera l'aéroport insulaire le plus important au monde. La Chine veut faire de Dalian un hub aérien en Asie avec une capacité de 80 millions de passagers par an.
Sébastien Berriot pour le reportage, merci beaucoup. La suite, c'est Sous les radars avec Guillaume Audat, juste après Caroline Gillet. Caroline au pays des 27, le tour de la planète continue. En attendant, les amis, il passe notamment par Yaoundé au Cameroun avec Blik Bassi et Roseau, c'est aussi le titre. Et Blik Bassi sur France Inter et dans Un jour dans le monde. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Guillaume Audin.
Et on commence avec l'Argentine, Guillaume. À la une de la presse là-bas, la boîte de sauvetage envoyée par Donald Trump. Javier Milei, le président argentin, est à Washington ce mardi.
Oui, en quelque sorte, il est venu chercher son chèque à la Maison-Blanche, Javier Milei. Un chèque à 20 milliards de dollars, en fait. Un plan de sauvetage inespéré que lui accorde le Trésor américain sous la forme d'une swap line, une ligne d'échange monétaire entre banques centrales. En clair, les États-Unis achètent pour 20 milliards de dollars de pesos argentins une bouffée d'air extraordinaire à la fois pour soutenir une monnaie exsangue dans un pays qui connaît une inflation record. Je vous donne un exemple, une tablette de chocolat là-bas en ce moment c'est 6 à 7 euros, chez nous c'est 2 euros. Bouffée d'oxygène politique avant les élections générales fin octobre en Argentine que le parti de Milei n'est pas du tout sûr de remporter. Et c'est là que Trump se pose en sauveteur du libertarisme à la tronçonneuse de son homologue argentin. C'est un pari idéologique, donc irrationnel. Si Javier Milei perd les élections législatives, le peso argentin prendra très cher et Washington perdra des milliards de dollars dans cette affaire.
L'homme qui parle est jugé depuis hier à Londres, il s'appelle Tony Robinson, icône de l'extrême droite britannique, qui rassure ses partisans. Elon Musk va payer ses frais de justice.
Oui, et cela il l'a affirmé dans l'extrait que l'on vient d'entendre à bord d'une camionnette en route vers le tribunal. Tony Robinson est filmé par son équipe quand il lâche sa bombinette. Oui, affirme-t-il, c'est bien le patron de X et Tesla, Elon Musk, qui paye ses frais d'avocat. La vidéo, elle a évidemment fait le tour du Royaume-Uni, ce qui lui a permis de mobiliser autour de son procès davantage de l'opinion publique. Encore, il est jugé, Robinson, pour avoir refusé l'année dernière à la police d'inspecter son téléphone sur la base d'une législation antiterroriste. L'activiste avait été interpellé à bord d'une Bentley argentée. Il avait 13 000 livres en liquide sur lui, un passeport irlandais. Pas touche à mon portable, secret des sources, avait alors argué Robinson, qui n'a rien d'un journaliste, mais qui produit du contenu, entre autres xénophobe et anti-islam. Il dénonce aujourd'hui, grâce à l'argent de son copain milliardaire Elon Musk, un usage politique de la loi antiterroriste britannique, une façon, dit-il, de criminaliser ses opinions. Vivement le verdict.
Je ne vais pas être original. La personnalité de la semaine, c'est également le Premier ministre. Mais pour d'autres raisons.
Alors, il s'appelle Hisseini Ilboudou. Il ne parle pas de Sébastien Lecornu, on aurait pu le croire. On vient d'écouter une archive, la voix d'un journaliste très connu au Burkina Faso, enlevé ces derniers jours.
Oui, alors c'est ce fameux Hisseini Ilboudou.
Ilboudou.
Ilboudou, ouais, excusez-moi, j'étais en train de lire autre chose. Hisseini Ilboudou, directeur de l'Observateur Palga, un quotidien burkinabé. Il a été enlevé en pleine conférence de rédaction, en effet, interpellé par des fonctionnaires se présentant comme des agents du renseignement. C'est ce qu'a affirmé le journal sur sa page Facebook ces derniers jours également. Un autre journaliste, trois magistrats également ont été kidnappés et ou portés disparus, sans qu'on ne sache vraiment. Tous les regards se tournent vers la junte du capitaine Traoré, un régime en pleine dérive autoritaire depuis son coup de force en 2022, des kakis régulièrement accusés de réprimer les voix dissidentes. Souvenez-vous, on en parlait la semaine dernière, ici même, deux Français, membres d'une ONG internationale, ont été arrêtés pour des motifs extrêmement flous. Et à ce stade, comme pour les journalistes et les magistrats dont on parle, toujours pas de nouvelles.
Guillaume Audat, merci beaucoup. Guillaume, à demain. Caroline Gillet, au Pays des 27, entrée.
France Inter, le 18-20.
Caroline, toutes les semaines, vous ouvrez une porte de l'Europe pour nous raconter ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, focus donc sur le GPS européen. Il s'appelle Galileo. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Ces satellites sont au-dessus de nos têtes, évidemment, à côté des équivalents américains, russes ou chinois. En mars dernier, vous aviez rencontré Stephen Bushired. C'est lui qui téléguide les satellites depuis la Terre et plus précisément depuis les Pays-Bas. Ce jour-là, il était en France pour une conférence. Voilà ce qu'il racontait à l'époque et aussi le tout dernier message qu'il a envoyé alors qu'il observe les incursion de drones dans le ciel européen.
Dans 30 mètres, continuez.
Aujourd'hui, Stephen est donc de passage à Paris. On a obtenu l'autorisation de s'installer dans les bureaux de la maison mère de l'ESA, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un grand bâtiment. Dans les vitrines en bas, il y a des mannequins avec des tenues spatiales. C'est follement réjouissant. Puis il faut passer la sécurité, comme toutes les semaines pour cette chronique. Merci. Et je me demande si surexposer un enregistreur au rayon X finira par modifier le son émis. Je négocie comme d'habitude pour garder mon badge en souvenir et le stocker dans mon appartement où je n'ai pas de place.
Non, malheureusement.
Il faut que je dise à Stephen que quand même, pour arriver jusque-là, j'ai donc utilisé le GPS ou Galileo sur mon téléphone. Et si je suis en retard, c'est que j'ai été induite en erreur.
Je me suis retrouvée dans une impasse.
Effectivement, les systèmes comme GPS ou Galileo, c'est un système qui permet à des engins équipés de la bonne petite puce électronique et de la bonne antenne de calculer leur position et le temps. D'accord. Et la partie cartographie et cheminement pour vous emmener d'un point A à un point B, c'est pas du tout Galileo. Ce sont des applications qui utilisent cette possibilité de se positionner. Mais voilà, c'est un abus de langage de dire mon GPS m'a fait venir là. C'est une application qui utilise l'information donnée par le GPS et Galileo pour vous proposer un chemin. C'est elle qui s'est trompée, c'est pas le...
Et sinon, vous vous amusez beaucoup, enfin, je sais pas, quand vous montez dans un taxi, vous dites, ah, c'est moi qui ai designé le GPS qui nous permet de nous diriger.
Alors déjà, c'est pas évident, c'est super abstrait. Vous avez jamais vu Galileo, non ? Donc j'ai une appli qui me permet de montrer aux gens. Voilà, regardez là. Vous allez voir. Voilà. Là, ce sont tous les satellites de positionnement. Donc là, je vais vous dire, en bleu ciel, sont le GPS. En bleu foncé, c'est Galileo. En vert, ce sont GLONASS, les Russes. Et en orange, les Chinois.
Alors, il faut expliquer ce qu'on voit. Donc là, vous avez pris votre téléphone. Et c'est un petit peu comme les applications pour voir les étoiles. C'est-à-dire que vous levez votre téléphone. On voit apparaître sur l'image tous les satellites qui sont au-dessus de nos têtes.
Voilà. Il y en a 27 satellites opérationnels, Galileo, en ce moment. Parce qu'ils sont loin, hein, ces satellites sont à 23 000 km d'altitude, donc on ne voit pas l'œil nu. Hein.
Et ça ressemble à quoi un satellite ?
Imaginez un gros cube, avec de chaque côté des panneaux solaires. Sur la boîte, vous allez trouver des antennes, déjà pour échanger avec les télécommandes et les télémétries. Voilà, dedans et à l'intérieur de cette boîte, il y a différents équipements électroniques, de propulsion aussi, pour pouvoir, le satellite peut faire des manœuvres d'évitement si besoin.
Et après, on en fait quoi ?
Et après, quand c'est orbite basse, en général, on les brûle dans l'atmosphère. Là, nous, on est trop haut. Donc, on les met sur une orbite dite cimetière. C'est-à-dire, on les recule un peu, on les met sur une orbite cimetière et ils restent en l'air.
Et vous êtes beaucoup en train de regarder ce qui se fait du côté d'Elon Musk et chez les rivaux. Enfin, c'est une véritable course, j'imagine.
Oui, c'est une course. Aujourd'hui, le système Galileo est le plus performant en termes de positionnement. On est trois fois plus précis que le GPS. Avec un budget nettement inférieur à celui des Américains aussi. Donc,
est-ce que vous êtes beaucoup plus intelligent ?
Alors, non, je ne dirais peut-être pas jusque-là. Mais,
disons qu'on a,
on a quand même des avantages. On a quand même de très bons ingénieurs en Europe. C'est-à-dire que nous, ça va être long avec nos méthodes de développement, mais on élimine le risque. C'est-à-dire que nous, quand on lance une fusée, je croise les doigts, mais elle n'explose pas. C'est de Elon Musk, elle explose souvent. C'est une autre façon de faire, en fait. Par contre, comme c'est long, c'est cher aussi. Alors, le débat aujourd'hui, c'est être plus agile, c'est-à-dire prendre un peu plus de risques. On fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, on apprend plus vite. Et qui dit plus vite, dit moins cher, peut-être aussi.
Mais revenons aux questions de stratégie. Dans le contexte géopolitique actuel, j'imagine que les dirigeants européens se félicitent d'avoir Galileo.
C'est un système qui nous donne une indépendance vis-à-vis du GPS. Bon, déjà, dans le civil, il y a plein d'applications. Si ça ne marchait pas, ça foutrait un sacré bazar. Après, donc aussi pour les forces armées, avoir un système de positionnement, c'est important. Je ne sais pas si vous avez vu les articles récemment là, sur les avions de chasse F-35 américains, donc qui nécessitent des mises à jour pour fonctionner tous les mois. Si on a un allié, un partenaire qui décide de ne plus nous donner ces mises à jour, l'avion ne peut plus fonctionner.
Bonjour Caroline, je vous envoie un petit message depuis mon bureau à l'ESTEC, donc c'est le centre technique de l'Agence spatiale européenne basé aux Pays-Bas. Donc je vois par la fenêtre le parking au milieu duquel on vous trouvera un satellite. Alors suite à notre discussion du mois de mars, le moins qu'on puisse dire c'est que la situation internationale ne s'est pas particulièrement améliorée. J'ai en tête les récents survols du territoire européen par des drones non identifiés ou le brouillage du système de navigation de l'avion d'Ursula von der Leyen en Bulgarie début septembre. Dans tous ces domaines où la souveraineté et la sécurité de l'Europe sont attaquées, le spatial joue un rôle central. Nous ne nous trompons pas de sujet. En fait, on travaille vraiment, par exemple dans la navigation, qui est mon domaine, nous améliorons constamment la robustesse du signal Galileo au brouillage. Nous renforçons les défenses du système contre les cyberattaques. Et au-delà de la navigation, l'ESA pousse un programme Resilience from Space très ambitieux pour l'Europe, dont le financement sera notamment discuté à l'interministériel avec les États membres d'ici la fin de l'année. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.
Allez, vous allez suivre tout ça pour nous, Caroline, et revenir bien sûr nous raconter. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Florence Paracuelos. Juste après, le téléphone sonne, évidemment, on parle de la suspension de la réforme des retraites. À tout de suite.